avec toi, Toto. Touche, touche dans le futur, c'était fut, fut. Comme ça, 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 50-50, donnant de moi et tout et tout.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
Première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter.
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir. Bonsoir,
vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. On est lundi 15 février et on vous a concocté une petite émission. On commencera à l'international avec un premier sujet sur les révoltes qui ont lieu à Haïti. On enchaînera sur l'Inde avec l'arrestation d'une militante suite aux mobilisations massives qui ont eu lieu. Puis un troisième sujet, on partira cette fois-ci en Grèce, où une loi prévoit que la police entre dans les universités, et on finira à l'international avec un sujet sur les nouvelles invasions du sud du Kurdistan.
Après une pause musicale, on passera au national, où on commencera par parler d'un appel à dons pour la frontière italienne. On parlera ensuite de l'occupation de l'Hôtel Dieu à Paris, ainsi que de la relance de la lutte des mineurs isolés étrangers.
Et au local, on recevra un représentant du collectif des sans-papiers 69, le collectif lyonnais.
On commence tout de suite, par contre, par les brèves.
Alors, 3 petites brèves pour cette émission et on commence avec une bonne nouvelle. Loujain Al-Altoul, une Saoudienne emprisonnée depuis 2018 pour avoir conduit une voiture, a été libérée. Une bonne nouvelle, c'est quand même vite dit quand on sait qu'elle a subi torture, électrocution, tabassage et fouet. La même année que celle de son arrestation, l'Arabie Saoudite avait autorisé les femmes à conduire, mais c'est dénoncé comme un coup médiatique puisque Loujain rappelle que d'autres comme elle sont encore en prison pour avoir conduit aussi, et surtout parce qu'elles ne sont pas aussi médiatisées qu'elles à l'étranger. Elle rappelle aussi que les femmes ont toujours peu de droits et que par exemple le père ou le mari peut toujours interdire à la femme de voyager. Et que si elle est emprisonnée, elle y reste si son père ou son mari ne donne pas autorisation pour la libérer. En France maintenant, des experts belges ont rendu un rapport lundi dernier qui lie, bien que légèrement, la mort d'Adama Traoré, mort pour rappel en 2016 lors d'une interpellation, aux manœuvres des gendarmes. Le rapport affirme qu'Adama est mort suite, et donc je cite, à un coup de chaleur aggravé par son immobilisation. Petit tournant donc, et les avocats des gendarmes continuent à axer leur défense sur leur méconnaissance de l'état de santé d'Adama, alors que pourtant ça pourrait bien être une raison pour ne jamais utiliser la méthode dite d'asphyxie par contrainte, puisqu'on ne peut pas savoir à l'avance ce que ça fera à des inconnus. Et puis toujours en France pour finir les brèves, et même à Saint-Étienne, samedi a eu lieu un rassemblement pour dénoncer le sexisme de la chaîne de burgers de Saint-Étienne, Brett Butcher, Les employés étaient en effet obligés, et sont toujours, obligés de porter sur leur tenue de travail des inscriptions à caractère sexuel du style « à poil les dindes, un resto très cochon » ou encore « il faut se la farcir ». Et ce, depuis plusieurs années, et même après un rappel à l'ordre d'un inspecteur du travail il y a 7 mois.
Et maintenant, passons tout de suite à...
International.
Avec un premier sujet sur la situation à Haïti. Jovenel Moïse, le président haïtien, élu en novembre 2016, est à nouveau dénoncé par tout le peuple haïtien. Grève générale et émeutes ont en effet éclaté dans cette ancienne colonie française pour lutter contre la violente répression de l'État ainsi que contre l'autoritarisme grandissant de son président. Pour rappel, Haïti, c'est un pays de 11,5 millions d'habitants qui est une ancienne colonie française donc, surtout pour le commerce de l'indigo et du sucre, et qui est aujourd'hui un des pays les plus pauvres des Caraïbes, avec plus de 2 millions d'habitants qui vivent avec moins d'un dollar par jour et où le chômage dépasse les 70%. Et alors que le pays a conquis son indépendance contre Napoléon en 1804, il se retrouve aujourd'hui soumis au joug de l'ingérence américaine et des chantages du FMI. Cette révolte s'inscrit dans le prolongement du mouvement insurrectionnel de 2019 dont on avait beaucoup parlé ici. Pour rappel, en 2019, une contestation massive a eu lieu après la révélation de plusieurs scandales de détournement de fonds. Et c'était surtout le scandale Petrocaribe qui avait mis le feu aux poudres. Ce projet prévoyait des prêts de la part du Venezuela, notamment pour qu'il puisse vendre du pétrole à bas prix à Haïti afin de financer des plans sociaux. Mais une des plusieurs publications... de rapports ont ciblé la corruption de hauts responsables du gouvernement haïtien qui auraient détourné une partie des fonds. Depuis, la politique d'austérité imposée par le FMI perdure, les pénuries de carburant se prolongent et le président Moïse ne veut pas quitter le pouvoir. Sa seule réponse à la crise politique, économique et sociale en cours consiste en une réforme constitutionnelle qui vise à renforcer les pouvoirs de l'exécutif, notamment en supprimant le Sénat et en redécoupant les circonscriptions électorales. Et alors que son mandat devait prendre fin le 7 février dernier, Jovenel Moïse a autoproclamé son prolongement jusqu'en 2022. Et afin de se maintenir au pouvoir, quoi de mieux qu'une petite diversion ? Et en matière de diversion, Moïse voit grand, puisqu'il a annoncé le 7 février, c'est-à-dire le jour même de la fin de son mandat, avoir déjoué, devinez quoi ? Un coup d'État, et ben ouais, plus c'est gros, plus ça passe. Ce coup de force autoritaire s'accompagne d'une violente répression à l'encontre des manifestants. Au début du mois de février, une grève générale contre le gouvernement, appelée par les syndicats de l'éducation, des chauffeurs et des travailleurs du textile, avait déjà été la cible d'une violente répression d'État. Flics et militaires avaient quadrillé les rues de la capitale Port-au-Prince et les affrontements avaient quand même fait 3 morts. De plus, depuis qu'il a annoncé la tentative du coup d'État, les mesures autoritaires se succèdent. 3 juges de l'opposition qui devaient participer à un gouvernement de transition après donc la fin du mandat ont été tout simplement écartés. Des avis de recherche d'opposants ont été rendus publics, des journalistes ont été attaqués et le président Moïse décide de gouverner par décret jusqu'à annoncer les blocages routiers comme des actes terroristes. Tout est donc là pour accroître la colère de la rue et du mouvement ouvrier haïtien qui se bat depuis 5 ans contre la politique d'austérité du gouvernement et surtout contre l'impérialisme américain qui ne cesse de mettre le pays sous pression, comme le confirme encore récemment une annonce de l'ONU qui, clairement, soutient le calendrier prolongé de Moïse. Face au mépris du pouvoir haïtien et aux ingérences américaines, force et soutien au peuple haïtien.
Et on enchaîne tout de suite avec un sujet sur l'Inde.
Oui, alors d'abord un bon gros résumé, puisque en Inde, ça fait maintenant plus de 3 mois que les paysans occupent les routes qui mènent à la capitale pour protester contre la libéralisation du secteur agricole. Donc jusque-là, en Inde, certaines denrées, comme le riz par exemple, bénéficiaient d'un prix de soutien minimal et ne pouvaient être vendues que sur des marchés contrôlés par l'État. Le prix fixé était certes bas, mais il était garanti. Le premier ministre indien, Narendra Modi, souhaite mettre fin à ce contrôle de l'État, arguant que cela permettra aux agriculteurs d'augmenter leur prix de vente. Apparemment, ces derniers n'y croient pas, puisqu'ils sont des dizaines, voire des centaines de milliers, à camper jour et nuit depuis donc plus de 3 mois, autour de la capitale, et à prendre parfois le contrôle des péages pour les rendre gratuits. Au début, la stratégie du gouvernement a été plutôt de laisser le mouvement durer dans l'espoir qu'il se fasse vite oublier, qu'il s'essouffle, et surtout à interdire toute entrée dans la capitale et une frontière donc de barbelés bien gardée a été érigée pour séparer les manifestants de la capitale. Mais il y a eu un tournant dans le comportement du gouvernement le 26 janvier, jour de la fête nationale, lors de laquelle les syndicats avaient négocié l'autorisation de parader en nombre restreint à Delhi. Et vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça ne s'est pas passé comme prévu. Les paysans n'ont pas accepté la limitation du nombre de personnes et ont déferlé dans les rues de Delhi. La police s'en est donc prise aux manifestants et la répression a pris la forme de nombreuses arrestations. Et il y a eu un mort, du côté des manifestants bien sûr. Répression qui s'est enchaînée avec la coupure des accès à Internet et aussi à l'eau, ce qui est quand même particulièrement cruel, dans tout l'état de l'Haryana, donc c'est l'état voisin de Delhi, où sont donc stoppés les manifestants. Depuis, Modi essaie de reprendre le contrôle de la médiatisation de la réforme et voit d'un très mauvais œil que des personnalités étrangères comme Rihanna et Greta Thunberg partagent des informations sur les manifestations. D'ailleurs, lui qui traite les manifestants de complotistes, il dénonce Rihanna et Greta Thunberg comme faisant partie d'un complot international.
Ah oui, c'est évident.
Sa dernière tentative en date pour étouffer le mouvement est d'ailleurs liée à Greta Thunberg, puisque celle-ci a partagé sur son compte Twitter une liste de choses à faire depuis l'étranger pour soutenir le mouvement des paysans. Ce sont des choses, somme toute, très classiques. Ça va de signer une pétition à appeler nos politiciens locaux pour qu'ils prennent publiquement position pour les paysans qui subissent maintenant une violence d'État. Hier, une militante écologiste indienne de 22 ans, Disha Ravi, a été arrêtée sous prétexte qu'elle avait créé cette liste. Liste bien banale pour l'avoir lue. Et pour ce crime, elle est accusée d'être une conspiratrice et elle est détenue dans un endroit inconnu de sa famille, bien que cela soit apparemment illégal en Inde. Certainement que d'autres arrestations vont tomber puisque la police de Delhi a ouvert une enquête sur, et là je la cite, ce qui attise mécontentement et malveillance à l'encontre du gouvernement. Bref, la répression ne fait que commencer contre les paysans qui refusent de se faire embobiner. La réforme contre laquelle ils se battent, en fait, elle a été suspendue en janvier par la Cour suprême indienne en attendant d'être examinée par des experts. Si les paysans sont encore là, c'est parce qu'ils savent que les experts sont déjà favorables à la réforme et ils ne comptent pas bouger avant le retrait complet des trois lois qui ouvrent la vente des céréales aux marchés libéraux et suppriment le prix minimum garanti. Leur argument principal est qu'ils ne feront pas le poids pour négocier les prix face aux grands groupes de l'agroalimentaire. Alors, au lieu de se laisser intimider, ils s'organisent pour faire perdurer leur lutte. Les paysans se relaient pour approvisionner les campements en nourriture et des écoles ont même ouvert. Et ils semblent prêts à tenir le siège. Ces paysans qui ne croient pas que la libéralisation des prix leur sera favorable, ils ont raison. Et ça, normalement, on le sait maintenant en France, si on regarde ce qui s'est passé avec le prix du lait. Puisqu'en Europe, son prix était régulé par les États de 1984 à 2015. Et le premier effet de cette dérégularisation, ça a été la possibilité de vendre à perte. Et c'est le cas, les producteurs français vendent aujourd'hui leur lait à perte. Autre conséquence, pour être concurrentiel sur le marché mondialisé, seuls les immenses élevages ultra-automatisés survivent et les éleveurs s'endettent sur des décennies auprès des banques et aussi auprès des grands groupes laitiers qui leur achètent du lait, donc au prix qu'ils fixent eux-mêmes, tout en leur vendant aussi du matériel. Ce qui crée une grosse dépendance envers ces groupes, auxquels les éleveurs ne peuvent pas s'opposer. Et résultat de cet endettement, un taux de suicide beaucoup plus élevé que la moyenne. Pourtant, comme à chaque fois qu'on veut nous faire avaler une réforme libérale, en 2015, on disait que ça allait forcément faire augmenter le prix du lait, puisque les éleveurs pourraient faire jouer la concurrence et vendre au plus offrant. Et c'est exactement l'argument de Modi pour faire passer ces réformes en Inde. L'agriculture en Inde aujourd'hui, c'est à 85% des petites exploitations de moins de 2 hectares. Et ils sont déjà soumis à l'endettement. En 2019, ce sont 10 300 agriculteurs indiens qui ont mis fin à leur jour. Et donc cette réforme ne fera que les enfoncer davantage. Alors on ne peut que leur souhaiter que cette lutte paye. Cette lutte paye.
Et on enchaîne toujours à l'international avec la mobilisation étudiante en Grèce.
Jeudi dernier, le Parlement grec a voté un texte de loi instaurant une police spéciale pour patrouiller dans les universités. En opposition, la jeunesse se mobilise depuis maintenant un mois, malgré la forte répression qui s'abat sur elle. En effet, le froid glacial n'a pas empêché les étudiants et les étudiantes de descendre à nouveau dans la rue en Grèce pour intensifier leur lutte contre le projet de loi porté par M. Kerameos, ministre de l'Éducation, et M. Chrysokoïdis, ministre de la Protection du Citoyen. On l'a dit, la politique autoritaire du gouvernement grec vise, par l'adoption de cette loi, à permettre, entre autres, aux policiers de s'introduire dans les facs. Un bel exemple de la coloration idéologique du gouvernement dirigé par le parti de droite Nouvelle Démocratie, qui est soutenu sur ce coup par le parti d'extrême droite Solution Grecque. C'est sans conteste un projet de loi liberticide qui vise à museler la jeunesse en attaquant son espace d'organisation et d'expression principale, l'université. De plus, prioriser la répression dans le domaine de l'éducation est vécu, pour beaucoup, comme une réelle provocation quand on sait que le manque de moyens que connaissent les facs est énorme et quand on sait que le budget ne cesse d'être amputé année après année. Pour vous donner une idée, le budget annuel de l'enseignement supérieur de l'université grecque est de 91,6 millions d'euros par an. Et par rapport à ça, le coût de la création du corps de police spéciale pour les universités s'élèvera quant à lui à 20 millions d'euros par an, c'est-à-dire plus d'un quart. D'autre part, cette loi répressive a un enjeu historique et symbolique fort, puisqu'elle vient abolir ce qui avait lieu jusqu'à présent, c'est-à-dire l'asile universitaire qui interdisait à la police d'entrer dans les facs. Et cet asile universitaire, il avait été promulgué après la chute de la dictature des colonels en mémoire du soulèvement de l'école polytechnique du 17 novembre 1973, pendant lequel l'armée grecque était entrée avec des tanks dans l'école polytechnique et avait fait 24 morts. Beau souvenir que le gouvernement grec veut raviver là. Au cours des manifs de la semaine dernière, de nombreuses violences policières à l'encontre des manifestants et des manifestantes ont eu lieu, surtout à Athènes et à Thessalonique, entraînant de graves blessures et de nombreuses arrestations. Il a été également signalé des agressions de la police à la fois contre un photojournaliste devant le Parlement et contre Sofia Sakorafa, députée et vice-présidente du parti Mera 25. Cette loi s'inscrit donc pleinement dans la ligne de la politique sécuritaire du gouvernement de Mitsotakis qui, depuis le début de son mandat, a entre autres renforcé la politique anti-migratoire en Grèce, mais aussi les effectifs de police, ceux de l'armée, sans parler de la vague d'expulsion des squats anarchistes à Exarchia à Athènes. En Grèce, tout comme dans de nombreuses autres villes et pays, le peuple résiste aux lois liberticides des gouvernements, force à lui.
Et pour finir à l'international, on passe au Kurdistan.
Oui, le 10 février dernier, l'État turc a lancé une nouvelle opération militaire d'invasion du Kurdistan irakien au nord de l'Irak et au sud du Kurdistan. Suite à l'opération Claw Eagle qui avait eu lieu l'année dernière dans la région de Heftanin au Kurdistan irakien, cette fois c'est dans la région de Gareh, contrôlée par les forces révolutionnaires kurdes, que des frappes aériennes et des attaques terrestres turques ont eu lieu. Donc la région de Gareh, qui est aujourd'hui le théâtre de violents affrontements entre l'armée turque et la guérilla résistante, a été envahie et encerclée aussi par les forces du PDK, le parti politique kurde irakien. Donc il semble que l'objectif de l'État turc est de provoquer aussi une guerre entre le PDK et les guérillas du PKK, donc le parti révolutionnaire kurde, ce qui causerait davantage de divisions et de troubles au sein de la société kurde. Donc pour l'instant, ce n'est pas tout à fait sûr, mais dans leur première déclaration, les YPG, donc les forces armées du peuple, l'armée du PKK, a déclaré que les hélicoptères qui ont amené des forces terrestres turques viendraient du nord, ne viendraient donc pas du nord, donc pas de la Turquie, mais du sud, c'est-à-dire de la zone contrôlée par l'armée irakienne. Le ministère turc de la Défense a annoncé en tout cas le début de cette nouvelle opération majeure en dehors de leurs frontières qu'ils appellent l'opération Claw Eagle 2. Et l'objectif est de s'enfoncer plus en avant dans le sud du Kurdistan pour la Turquie et d'installer leur zone d'expansion entre le sud et le nord du Kurdistan. L'attaque contre Gareh est en tout cas comprise par les Kurdes révolutionnaires comme une attaque contre l'ensemble de la révolution et une menace majeure pour la commune internationaliste de Rojava. Il considère qu'il n'y a pas de différence entre l'occupation d'Efrin, l'occupation de Serikaniye et une opération contre le Rojava ou l'occupation de Gareh. Et que l'attaque des montagnes de Gareh vise le cœur de la révolution et de la résistance antifasciste dans la région. Les forces kurdes du Rojava lancent donc un appel international à se mobiliser contre les collaborateurs régionaux et internationaux de l'État turc en bloquant et en occupant des espaces stratégiques turcs.
Et maintenant, en soutien au peuple haïtien en lutte, on va écouter une rappeuse haïtienne, Princesse Eud, avec son morceau « Je rappe fort ».
Bonsoir. Bonsoir. Iyodina Kaila. Je m'appelle Iyodi, touche pas à mes Lorsano, je vous l'interdis. Je suis du genre hardcore soft, mais vraiment hardy. Je viens pour rapper sur des sujets qui sont interdits. Comme le père qui veut sa fille, mais c'est le voleur qu'il maudit. Si tu pointes ton âme, ta bouche, c'est quand même bandit. Viens pas faire la morale si tu danses sur la même mélodie. J'ai compris l'hypocrisie qui règne dans cette société, car entre temps, moi-même j'ai grandi. Je raconte tous ces vendeurs de prostitution, des hommes d'affaires qui polluent nos institutions. Je rappe à gorge déployé
est pour toute une nation et aussi pour tous ces rappeurs qui rappent leur vocation. My name is Princess Yudi. Yo, Princess Yudi, yo. Je rappe. Rap encore plus fort. Encore plus fort. Mais attends, attends, attends. En créole cette fois-ci. Attendez, attendez. Tournez encore et fait yon rentre triomphale. Pour me rapper contre tout le monde qui a parlé et traité femme mal. Et me profiter rapper contre toute femme qui a pas affiché. Sur internet, yon l'amour même si le connaît pas marché. Oh oui, this is my boo. Pendant c'est un aigle à traîner, on a la boue. Mesdames, réveillez-nous, si ce n'est pas jouer dans jouet, nous bouillons petit cric, petit crack, pour ne pas faire du valet. Babine chercher, rhum, vine essayer de ranger. Tout petit blonde dans la ville qui quitte, yo dérangé. Yo, vine rapper contre tout ça, cap créer dérangé. Haïti, son seul ranger lié, ma bouvée yo. Sortim là, ma bouvée yo. C'est ça même, ouvée yo. Je rappe fort,
vas-y plus fort. Mauvais monde toujours réjoui. Bon femme, pas qu'à jeune mari. Toujours à faire yo habillé. Même si m'sou pas la rue, musique ou pas privé. Gagné DJ, pas mettons dans playlist. Ah mes amis, yo dîme sou pas fait buzz. Et bien pas atterri. Yo dîme net la piégé. C'est la game puis c'est gris. Yo même dîme sou fait bon bagaille. Personne pas préagi. Même préféré fait ça qui go pour yo qu'à tirer pour la vie. M'pas fait back, m'toujours à baïtac. Bon attaquant, toujours à l'attaque. M'rete fraîche, m'pas non fait crack. Si m'pas un mot, même si m'écris puis go fou. Réponds crack. Je rappe pas. 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 Je rappe pas.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est le Canu Info du lundi. Et on passe maintenant à...
National.
Au national. Il faut se réentraîner. Et on commence tout de suite avec un appel à dons pour la frontière italienne.
Oui, alors il y a deux semaines, on vous passait un entretien avec une maraudeuse et un maraudeur à la frontière italienne. Et donc vous avez certainement compris que pour les personnes qui traversent la frontière en ce moment, c'est difficile. Et il y a beaucoup de gens qui restent, qui stagnent du coup derrière la frontière italienne. Pour leur venir en aide, pour les aider, il y a un appel à dons qui circule, que je vais vous lire tout de suite. Et les dons peuvent être déposés jusqu'ici, au 169 Grande Rue de la Guillotière, le vendredi de 14h à 17h, et sûrement un peu n'importe quand dans la semaine, mais avec moins de certitude que ce soit ouvert. Et puis ce sera aussi dans un autre lieu certainement, mais ce sera confirmé dans un article sous Rebellion, donc restez connectés. Et puis donc voici tout de suite la liste. Des médicaments, donc des crèmes contre les brûlures, des anti-inflammatoires, des antidouleurs, des médicaments contre le rhume, de la propolis, des plaques de cuisson, des radiateurs, des thermos, des powerbanks, c'est-à-dire des batteries portables, bouilloire, multiprise, luge, friteuse, téléphone, plaque de cuisson, ça j'ai déjà dit, éventuellement ordinateur, carte SIM, et puis des habits. Alors des habits, l'idéal ce serait que ce soit des habits de ski, donc vêtements techniques, masque de ski, veste de ski, tout ce que vous mettriez vous-même pour aller au ski et pas de chaussures à talons ou de débardeurs. Et surtout aussi de l'alimentaire. Donc là, c'est barres énergétiques, huile, farine, café, sucre, sauce tomate et tout ce qui peut être stocké et qui est non périssable.
Et on enchaîne au national avec l'occupation de l'Hôtel Dieu à Paris.
Et oui, en cette période de grand froid, une centaine de personnes ont décidé d'occuper l'Hôtel Dieu à Paris afin d'exiger un logement décent pour tous et pour toutes. Face au manque d'hébergement d'urgence, le collectif parisien Réquisition a décidé de faire une opération médiatique en s'installant dans l'Hôtel Dieu, situé sur l'île de la Cité, un quartier très chic, très bourgeois du centre de Paris, pour exiger la mise à l'abri immédiate d'une centaine de personnes dans les ailes vides de l'hôpital. Parmi les collectifs sur place, il y avait le DAL, il y avait l'Urgence Wilson et d'autres. Les revendications qui ont été portées sont très claires, puisque le collectif Réquisition exige entre autres, on l'a dit, la mise à l'abri de toutes les personnes sans abri jusqu'à leur relogement pour les protéger du froid, des dangers de la rue et des violences policières. L'hébergement inconditionnel et sans remise à la rue et l'application de la loi de réquisition, car 3 millions de logements sont vacants en France et des centaines de milliers de personnes sont sans logis. Réussite en demi-teinte, dirons-nous, pour cette action, puisque les hommes seuls ont été placés en centre d'hébergement d'urgence et les familles vers des hôtels sans aucune garantie de pouvoir y rester ou combien de temps. En tout cas, continuons à réquisitionner tous les logements vides.
Et puis, pour finir le national, on va parler maintenant des mineurs isolés étrangers.
Eh ben, en fait, on va d'abord commencer par parler d'un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui a été rendu cette semaine, la semaine dernière, donc jeudi 11 février, et qui dénonce la violation par l'État français des droits fondamentaux des migrants dans le nord de la France, notamment à Calais et à Grande-Synthe. En effet, une délégation de la Commission nationale consultative des droits de l'homme s'était rendue au mois de décembre à Calais et à Grande-Synthe et a constaté la dégradation des conditions de vie des migrants. En jugeant la politique sécuritaire de l'État désastreuse, elle considère que l'État ne remplit pas son rôle de protection des populations, que, au nom d'un prétendu risque d'appel d'air, les pouvoirs publics mettent en œuvre une politique du zéro point de fixation sans prévoir aucune solution de relogement pour les migrants. Et cette commission donc recommande aux autorités de mettre un terme à cette politique sécuritaire aux conséquences désastreuses pour les personnes exilées. C'est évident que depuis des années, les associations dénoncent les démantèlements successifs de camps dans cette région, donc notamment à Calais et à Grande-Synthe, puisqu'il y a des démantèlements quasiment tous les jours, voire tous les deux jours, de camps et de campements, une stratégie donc de l'État qui contribue à invisibiliser les exilés qui se cachent des autorités. À Calais, l'association Human Rights Observers avait recensé plus de 1000 expulsions de lieux de vie informels à Calais et dans la région en 2020. Donc l'invisibilisation des exilés complique leur accès à l'eau potable, à la nourriture, aux douches, aux sanitaires, aux premiers soins d'urgence et aux services hospitaliers. Et la commission note bien que ça porte des atteintes graves à la dignité des personnes. Elle considère carrément que la violation récurrente des droits fondamentaux des personnes est inacceptable et que la violence envers les migrants à Calais est devenue institutionnalisée. D'ailleurs, c'est les expulsions, les démantèlements sur le littoral nord représentent à eux seuls 98% des expulsions de campements au niveau national. Donc la commission pousse carrément la France à dénoncer les accords du Touquet qui placent la frontière britannique en France à Calais, puisqu'elle considère que depuis le Brexit, le Royaume-Uni n'est plus lié par le règlement Dublin III, que le Brexit change les perspectives et justifierait une remise en cause des accords du Touquet. Donc ce qui est dommage, puisque on est quand même bien content que une commission nationale consultative des droits de l'homme ait des points connus avec certaines analyses qu'on fait souvent. Ce qui est dommage, c'est que cette commission ne rend que des avis et n'a aucun pouvoir juridique contraignant ni de sanction de l'État. Alors que le tribunal administratif, par exemple, qui a donc un pouvoir juridique contraignant, avait récemment, lui, débouté deux journalistes qui faisaient un recours contre leur impossibilité d'accéder justement à ces démantèlements de camps sur le littoral nord. Interdiction faite par les forces de l'ordre donc pour eux de couvrir les événements, donc d'en parler dans les médias, ce qui paraît quand même un minimum dans un État qui se dit démocratique. En plus donc de cette décision du tribunal administratif, la commission consultative parle aussi des mineurs isolés, en disant qu'ils sont eux aussi pas assez protégés par l'État français, etc. Et donc concernant les mineurs isolés, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu une mobilisation récemment, une nouvelle mise en lumière de leur situation, donc avec plusieurs notamment employeurs qui ont médiatisé la situation de quelques jeunes qui n'arrivaient pas à obtenir des papiers alors qu'ils voulaient poursuivre leur apprentissage et leur travail. Donc on avait notamment un boulanger qui s'était mis en grève de la faim pour soutenir son jeune apprenti. Et donc malgré cette mobilisation, on va dire, populaire, avec plusieurs cas de jeunes mineurs qui sont mis en avant en ce moment sur les réseaux sociaux, de la même manière, on a toujours les instances qui ont un pouvoir et qui ont un pouvoir contraignant, qui vont dans le sens de politiques migratoires répressives, puisqu'il y a aussi une nouvelle très récente du Conseil constitutionnel qui a conclu cette semaine que les tests osseux utilisés pour évaluer la minorité des jeunes étrangers non accompagnés étaient conformes à la Constitution. Une réponse évidemment qui fragilise la protection et les droits fondamentaux des enfants étrangers, donc des mineurs qui sont des enfants. Oui, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, mais les tests osseux sont pratiqués dans le but d'évaluer la minorité des jeunes qui sollicitent la mise à l'abri à l'assistance sociale à l'enfance. Et cette pratique donc des tests osseux, alors qu'elle est dénoncée par des tas d'ONG et d'associations, mais aussi par des instances scientifiques et médicales qui considèrent que ces examens ne sont pas fiables, eh bien, est apparemment définitivement constitutionnelle. Donc, l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Espérons que ça puisse avoir un impact médiatique, mais on attend bien sûr des prises de position et des possibilités plus contraignantes de la part d'instances officielles françaises.
Et avant d'accueillir notre invité, une petite musique.
On va écouter La Craps avec son morceau « Je sais plus comment faire ».
Des fois je sais plus comment faire, ni comment t'as fait le son. Le moral n'est pas à la fête, tu pires comme on t'a fait son. Puis j'ai attendu un signe, mais je vois que de la haine est décidé ça. La vie m'a rendu ainsi, ne crois pas que j'ai décidé ça. Des fois je sais plus comment faire, ni comment t'as fait le son. Le moral n'est pas à la fête, tu pires comme on t'a fait son. Puis j'ai attendu un signe, mais je vois que de la haine est décidé ça. La vie m'a rendu ainsi, ne crois pas que j'ai décidé ça. Quand je gratte, c'est ma vie perso que j'essaie d'égayer. Mes grands, je craque quand je vois que les frères sautent comme des CD rayés. J'ai déjà assez déraillé, je rappe mes blessures, je pleure. Les je vais les grailler, brailler ce que j'ai sur le cœur. Faire les gros titres, rien à foutre. À tout ça, je vais mettre un terme. Ça vient des tripes, chacun de mes sons pourrait ça. Les lettres internes, j'ai pris la plume, rester intègre. C'est pas si terrible, j'essaie. Et j'espère m'en sortir indemne, ne pas quitter le ring blessé. Tu sais, ma rage, je la tempère. Et je continue tant que mes couplets surinent. Mon rap, c'est la tempête. Un coup de pression, un temps coupé, sourire. Je suis comme toi, zinc. Je suis loin d'être sain et pas l'exemple. Et pour aller mieux, j'ai pas besoin d'un médecin, mais de cramer le sang. Je suis un mec simple, sois pas vexant. Ne fais pas de moi ton idole. J'aurais pas le même sans mes galères, sans les fins de moi au Lidl. Pareil que quand c'est magique, mais ce serait de la folie de penser vivre de ma zik, vu que je suis pas un de ces folies de. Ouais, tu verras des refs en sursis et d'autres à qui tout sourit. Que chaque épreuve t'endurcit, même coincé dans un trou de souris. Que l'oseille a tout pourri, même les relations qu'on avait. Mais je me bats pour que ça change, pour pouvoir être fier de ce qu'on a fait. Faut que je m'éloigne de la fumée, de la tise, faut que j'avance. Et mec, je fais preuve de romantisme quand je dis fuck la France. Non, je vais pas crier sur les toits que je vise et que je suis un caïd. Certains peinent sur des toiles, moi je fais glisser le pic sur un cahier. Des fois, je sais plus comment faire, ni comment t'as fait le son. Le moral n'est pas à la fête, je pire comme on t'affection. Puis j'ai attendu un signe, mais je vois que de la haine est décidée sale. La vie m'a rendu ainsi, ne crois pas que j'ai décidé ça. Les récits des armes, c'est de savoir en est une. Combien de temps qu'on se fait piller, quand est-ce que l'État rend les thunes. Et j'ai pas fait de grandes études, par texte c'est 2000 ratures. On a des rêves, mais on les tue, paraît que c'est devenir adulte. Pourquoi les petits traînent en ville? Devineras-tu vraiment? Pourquoi sommes-nous rentrés dans le vice prématurément? Pas là pour durer, non. et la survie un jeu d'échecs. Et j'ai pas un coup d'avance, donc sur beat bah je me déchaîne. Mon objectif n'est pas gagné, je te laisse beat jusqu'au sommet. Je vais finir par canner vu le nombre de spliffs que j'ai consommé. Gros t'auras pour me consoler, j'ai le regard creux vers les cieux. Pour ne plus voir mes proches partir, je suis prêt à me crever les yeux. Des fois je sais plus comment faire, ni comment t'as fait le son. Le moral n'est pas à la fête, je suis pire comme mon affection. Puis j'ai attendu un signe, mais je vois que de la haine est décidé ça. La vie m'a rendu ainsi, ne crois pas que j'ai décidé ça. Des fois je sais plus comment faire, ni comment t'as fait le son. Le moral n'est pas à la fête, je suis pire comme mon affection. Puis j'ai attendu un signe, mais je vois que de la haine est décidé ça. La vie m'a rendu ainsi, ne crois pas que j'ai décidé ça. Yeah, un classique, it's a crackling. Many days, yeah.
Vous êtes toujours sous Radio Canu et vous écoutez le Canu Info du lundi. Et on va passer à notre interview puisque nous avons un invité.
Et oui, on accueille ce soir Mohamed du collectif Sans Papier 69. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir.
Alors, est-ce que tu peux commencer par nous présenter un petit peu le collectif des Sans Papier 69 ?
Oui, tout d'abord, nous vous remercions de nous accueillir sur votre plateau au nom de tous les membres de CSP 69. Le collectif CSP 69 est né de le cadre de mobilisation nationale pour la régularisation qui a commencé le 30 mai de l'année dernière. Et cette campagne lancée par la marche de solidarité et l'échelle nationale nous a permis à Lyon et dans le, de commencer la lutte pour notre régularisation de manière collective. Nous, les sans-papiers, nous payons les impôts, nous dépensons ce que nous gagnons sur le sol de municipalité. Nous payons nos loyers, faisons vivre les commerces locaux, nous participons à la propriété économique de la France et nous nous engageons dans des associations et pourtant nous souffrons en silence des politiques d'immigration qui deviennent de plus en plus restrictives et nous obligeons à vivre dans l'instabilité et la différence de l'État français. Les papiers français sont les sixièmes que nous attendons parfois des années pour changer notre quotidien et vivre en toute dignité sur le territoire français. Pendant la période de Covid-19, les conditions de vivre des sans-papiers se sont aggravées car beaucoup d'entre eux sont logés de manière précaire. Ils ont peur de leurs travaux. Ils n'ont pas bénéficié de chômage partiel comme les autres. Par contre, il y a en partie qui a continué de travailler des métiers et des premières lignes pendant le confinement. Nous vous demandons de l'État français de nous accorder le droit de vivre légalement sur le territoire français et en accord avec les valeurs de solidarité, d'égalité et de la République en régularisation. Tous les sans-papiers demandant aussi logement pour tous et tous, instituons sur la fermeture du centre de rétention. Et voilà petite représentation de notre collectif CSP 69.
Ok, bah du coup j'allais demander quelles étaient les revendications, mais donc on a bien entendu la régularisation de tous les sans-papiers, l'accès au logement décent et la fermeture des centres de rétention. Et alors, tu peux nous récapituler les différentes mobilisations auxquelles vous avez participé en tant que collectif ?
La première mobilisation, c'était le 30 mai. On a essayé de sortir avec centaines de personnes ici à Lyon. Et la deuxième, c'était le 20 juin aussi. C'était la même chose, c'était réussi notre manif. Mais malheureusement, on n'a aucune réponse de la part du gouvernement. Et la troisième acte qu'on a fait, c'était la marche de solidarité qui est écrite au niveau national avec tous les collectifs de sur le territoire français. Ils ont fait en marche de solidarité de 19 septembre 2020 jusqu'à 17 octobre 2020 aussi. Ils ont marché pendant un mois et malheureusement on n'a aucune réponse de la part du gouvernement. Et là récemment ce qu'on a décidé entre les marcheurs et les marcheuses de crier en pétition sur une petite porte pour essayer de régularisation du sans-papiers. Et voilà, cette pétition qui parle de nombre de sans-papiers aussi, il n'y a pas de différent en fait, c'est juste une petite porte pour un petit pas pour essayer de régulariser massivement tous les sans-papiers ici sur le territoire français. Est-ce que je peux me permettre de parler un peu de cette pétition?
Oui, bien sûr.
Bon, la pétition, je vais vous lire en petite partie. Nous sommes des centaines et des femmes et d'hommes que nous avons marché à travers toute la France, par Paris, Montpellier, Marseille, 19 septembre, pour rejoindre Paris à pied 17 octobre. Ces marcheuses et marcheurs de Grenoble, Toulouse, Lyon, Nice, Lille, Strasbourg, Dijon, Nantes, Nancy, Metz, Valence, Le Havre, Rouen, ils ont tous rejoint Paris le 17 octobre 2020 dans un contexte de crise sanitaire et sécuritaire exceptionnelle. Nous avons marché 850 km pour demander la régularisation de notre situation administrative. Et mis à jour, nous n'avons toujours aucune réponse du gouvernement français.
Ok, donc la pétition, c'est une manière de vous soutenir et ensuite elle va être envoyée au ministère ou aux préfectures. Vous allez...
cette pétition, elle va être envoyée au niveau du ministère de l'Intérieur. Elle va adresser là-bas directement Gérald Darmanin.
D'accord.
Donc peut-être on peut répéter ou clarifier. Donc cette pétition, c'est une pétition pour régulariser les marcheurs et les marcheuses de la dernière marche qui avait été organisée, mais dans le but à long terme de régulariser tous les sans-papiers.
Oui, c'est juste un petit premier pas. Après, il y a d'autres revendications à l'avenir.
D'accord. Et justement, en parlant de revendications à venir, est-ce que vous avez sinon des dates de mobilisation à venir?
Pour l'instant, on a une date prévue le 8 mars, c'est une journée nationale de droits de femmes, aussi de sortir, de demander les droits de femmes des sans-papiers ici en France. Il y a aussi une assemblée générale à Paris qui s'est prévue le 13, 14, 15 mars pour rassembler tous les collectifs ici au niveau national à Paris pour essayer de demander d'autres revendications qui concernent tout le temps les sans-papiers. Et pour le mois de mars, ce qu'on a comme revendication.
Ok. Et pour finir, est-ce que tu peux nous rappeler comment rejoindre ou contacter le collectif des sans-papiers 69?
D'abord, je vais préciser comment vous retrouvez la pétition.
Oui, aussi.
Parce que j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure.
De toute façon, on la mettra en ligne quand on publiera sur le blog des Canu Info. Mais vas-y.
Il y a une page sur le réseau social Facebook, collectif des sans-papiers Lyon. Vous allez trouver cette pétition. Et vous pouvez aussi taper sur le lien. Il est un peu grand, mais je peux après vous envoyer ce lien pour essayer de l'envoyer sur votre réseau.
Ouais, on le mettra sur le blog du coup. D'accord. Le lien sur le blog de l'émission.
Et pour rejoindre le CSP, pour nous contacter, il y a une adresse mail csp69lyon@gmail.com. Il y a aussi la même chose, la page sur le Facebook collectif Sans Papiers de Lyon.
Ok. Merci Mohamed. En tout cas, on invite tous les auditeurs et auditrices à signer la pétition et à rester prêts à se mobiliser aux prochaines dates organisées par les CSP 69.
Merci beaucoup.
Et du coup, pour finir, on va finir avec un petit agenda.
Et oui, tout à fait, nous allons finir avec un petit agenda et notamment avec le cycle anticarcéral organisé par le Génépi Lyon. Donc le samedi 20 février de 10h à 16h, il y aura un atelier Imaginer un monde sans prison, pourquoi et comment. Le samedi 27 février à 15h, projection et discussion autour du documentaire Maton violent, la loi du silence. Le samedi 6 mars de 10h à 13h, arpentage sur le féminisme anticarcéral en mixité choisie, puis de 14h à 17h, atelier Construire un discours pour l'abolition du mitard en soutien au combat du collectif IDIR, Espoir et Solidarité. Ces événements, donc chaque week-end du 20 février au 6 mars, sont gratuits et ouverts à tous et toutes. Pour des infos supplémentaires, il faut contacter le Genepi Lyon. genepi-lyon@riseup.net.
Surtout pour savoir où ça se passe. C'est un super endroit à Villeurbanne.
Et peut-être à plus long terme, on peut donc rappeler les dates des prochaines mobilisations du collectif des sans-papiers de Lyon. Donc il y avait le 8 mars, il y a un rassemblement à Lyon pour la journée de la femme. Et la date du 13, 14 et 15 mars, ça c'est des rassemblements à Paris.
Oui.
C'est ça. Voilà.
Il y aura aussi, puisqu'on parlait des Kurdes tout à l'heure, un brunch de soutien au Kurdistan le 28 février, mais on le réannoncera la semaine prochaine, je pense.
Voilà.
Et on arrive donc à la fin de l'émission.
Un petit peu en avance, mais pour mieux revenir la semaine prochaine.
Et on vous dit donc à la semaine prochaine.
C'était le Canu Info du lundi, Radio Canu 102.2.
Ciao.
Merci. Ciao.